Mesdames et messieurs, dès 2002, notre ville a fait le choix visionnaire, celui du chauffage à bois. Depuis cette date, une première chaufferie alimente plus de 25 bâtiments dans la partie sud de notre territoire. Aujourd'hui, nous poursuivons cette ambition avec la création d'une deuxième chaufferie dans la partie nord.
Raphaël Mosselin, maire de Saint-Marcellin.
Un projet majeur pour notre ville, tant par son ambition environnementale que par son importance pour le quotidien des habitants. Aujourd'hui marque l'aboutissement de plusieurs années de réflexion, de coopération et de travaux. Et je suis particulièrement heureux de célébrer aujourd'hui avec vous cette étape essentielle de notre transition énergétique. Depuis le début de cette aventure collective, notre ambition a été claire: mettre en place un réseau de chaleur performant, capable de répondre aux besoins de nombreux bâtiments tout en réduisant significativement notre impact carbone. Aujourd'hui, nous pouvons mesurer concrètement le chemin parcouru. Le réseau de chaleur s'étend désormais sur 6,2 km et alimente 33 bâtiments. Parmi eux figurent 8 bâtiments municipaux, dont 2 écoles, mais aussi un collège, 2 lycées et le centre aquatique intercommunal, ainsi que 21 sites résidentiels. Ce mouvement est d'ailleurs déjà en expansion puisque 6 bâtiments supplémentaires seront prochainement raccordés, preuve de l'attrait de la pertinence de cette solution énergétique. Cette année, ce réseau permettra de livrer 9,5 gigawatt-heure d'énergie, soit l'équivalent de 950 logements. C'est un volume considérable qui contribue à alléger la facture énergétique des usagers tout en renforçant notre souveraineté énergétique locale. Grâce à cette chaufferie bois, nous éviterons 2400 tonnes de CO2 par an. C'est un engagement réel et mesurable en faveur du climat. C'est aussi un pas concret vers les objectifs nationaux et européens de neutralité carbone. Mais la réalisation de ce projet représente un investissement important, à la hauteur de ses ambitions. Nous avons pu compter sur l'appui décisif de l'ADEME, merci, à travers son fonds chaleur qui a apporté 4,2 millions d'euros, rendant possible la réalisation de cette chaufferie. Le département de l'Isère a également soutenu la démarche en finançant près de 30 000 euros d'études dans le cadre du contrat de chaleur renouvelable. Ces engagements témoignent d'une conviction partagée. Investir dans les énergies renouvelables, c'est investir dans l'avenir. Je tiens à exprimer ma gratitude la plus sincère envers toutes celles et ceux qui ont participé à cette réalisation. Nos services municipaux ont joué un rôle central en assurant le pilotage du projet avec professionnalisme, rigueur et persévérance. Permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à mon adjoint à l'urbanisme, M. Christian Dreyer, pour avoir contribué à la réalisation de ce projet, ainsi qu'à notre directeur, M. Amaury Gaude. Il a gardé le sourire tout au long du chantier, même si je n'en doute pas, certaines nuits ont été courtes. Les équipes de maîtrise d'œuvre et les bureaux d'études ont su concevoir un équipement complexe et performant. Les entreprises mobilisées sur le chantier ont apporté leur savoir-faire, leur rigueur et leur engagement au quotidien. À ce titre, je tiens à remercier chaleureusement Engie Solutions, Arcane Architectes, Tout en Vert et Derbecou, qui ont réalisé les travaux. Je remercie également l'entreprise locale IDAC, qui a été le principal sous-traitant en charge de la pose des canalisations et de la réalisation des sous-stations. Je n'oublie pas non plus les Saint-Marcinois qui ont fait preuve de patience tout au long du chantier, car ils ont mangé de la poussière. Au-delà de l'infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui, nous célébrons surtout un symbole, celui d'une ville qui se transforme, d'un territoire qui choisit l'innovation, la sobriété et la responsabilité. Cette chaufferie est un pas de plus vers une commune plus durable, plus résiliente et plus solidaire.
La production de chaleur ici dans cette chaufferie est assurée par 2 chaudières bois de 1,2 MW. Alors j'ai fait un petit calcul, c'est l'équivalent de 400 poêles à bois en termes de puissance, de poêles à bois individuelles. Et il y a près de 10% de l'électricité qui est utilisée pour cette chaufferie, qui est couverte grâce à 200 mètres carrés de capteurs solaires photovoltaïques qui sont sur le toit de la chaufferie.
Pascal Lauriferne, directeur régional Engie Solutions Savoie Dauphiné.
Plus de 9 MWh sur 10, 90% très exactement, sont produits à partir de biomasse, ce qui améliorera significativement l'impact environnemental du chauffage sur le territoire, vous l'avez dit, en évitant 2400 tonnes de CO2. C'est l'équivalent de 5 fois le tour de la Terre en véhicule thermique, en économie de CO2. J'ajoute que la maintenance et la conduite de cette chaufferie ont permis la création au sein d'Engie Solutions d'un emploi. Cet emploi pérenne et local est assuré par l'un de nos techniciens ici présents. Cette installation nécessitera 3000 tonnes de plaquettes forestières par an, dont l'approvisionnement sera réalisé par deux fournisseurs locaux qui sont situés à moins de 10 km d'ici. Et le bois, lui, proviendra de gisements à moins de 100 km de Saint-Marcellin.
Voilà, une fois sur deux, quand on consomme de l'énergie, c'est pour produire de la chaleur. Et donc, si on ne développe pas les réseaux de chaleur partout où c'est pertinent de le faire, eh bien, on ne sera jamais au rendez-vous de la neutralité carbone et de l'indépendance énergétique.
Emmanuel Goy, directeur régional adjoint de l'ADEME.
La bonne nouvelle, c'est que cette chaleur, on peut la produire avec des énergies renouvelables locales. Et aujourd'hui, nous en avons un parfait exemple. Le premier intérêt, il est pour les territoires. Vous l'avez dit, l'ADEME, grâce au fonds chaleur, aide financièrement le développement de ces projets-là. Quand nous mettons 1 euro de fonds chaleur sur un projet d'énergie renouvelable locale, ce sont 3 euros qui sont investis dans les territoires avec toutes les entreprises qui travaillent sur ces territoires et qui font travailler donc toutes ces entreprises. Le deuxième intérêt, il est bien sûr pour les usagers, les habitants, les entreprises, les associations, les collectivités qui sont raccordées à ce réseau de chaleur. Et bien finalement, le réseau de chaleur, aujourd'hui, ce n'est rien d'autre qu'un extraordinaire bouclier pour se protéger contre les hausses qui vont revenir des prix des énergies fossiles sur les marchés internationaux. Vous avez parlé de souveraineté énergétique locale. Ce projet contribue à la souveraineté énergétique nationale dont nous avons tant besoin dans ces périodes géopolitiques tourmentées et pour lesquelles on ne voit pas trop d'amélioration à court ou moyen terme. Et notre indépendance énergétique, c'est clairement un outil de souveraineté et de résilience face aux crises que nous traversons et qui vont perdurer. Ce bouclier, il est bien plus solide. Et il est bien moins coûteux pour la collectivité dans son ensemble, il est bien moins coûteux pour la nation que d'aider les personnes en période de crise à payer leurs factures. Voilà, en utilisant des énergies renouvelables locales, eh bien on a une stabilité dans le temps et une visibilité dans le temps des prix. Et on n'a pas besoin de jouer les pompiers, pardonnez-moi l'expression, quand tout à coup le prix du gaz est multiplié par 10 sur les marchés internationaux et qu'on le subit sans avoir de moyens d'en changer du jour au lendemain. Et donc le troisième intérêt, il est plus global, et c'est que quand on regarde l'argent qui a été investi par le fonds chaleur, hein, aujourd'hui l'État via l'ADEME a dépensé en gros 4 milliards d'euros en fonds chaleur depuis la création du fonds chaleur il y a un petit peu plus de 10 ans, et bien chaque année, quand le gaz est pas cher, ces 4 milliards investis par l'État nous font économiser 1 milliard d'euros en importation d'énergie fossile en France, chaque année. Et quand le gaz est cher, c'est 4 milliards d'euros. Donc finalement, le temps de retour pour la nation du fonds chaleur, il est extrêmement court. Et c'est un investissement qui est tout à fait rentable pour la collectivité dans son ensemble. Et je salue ici le partenariat que nous avons effectivement avec le département de l'Isère et qui confie à l'AGEDEN, que j'ai vu ici, ce rôle d'accompagner les projets pour que les maîtres d'ouvrage, les porteurs de projets se posent les bonnes questions le plus en amont possible des projets et pour les orienter vers la bonne énergie au bon endroit, le bon type de mise en œuvre des énergies renouvelables locales. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de ce beau projet. Merci, merci et bravo.
Eh bien, on va couper le ruban, hein, comme la tradition le veut. Donc, je vais demander aux élus de me rejoindre en bout de piste, c'est ça? Ben, ok. À tout de suite.
Nous sommes à la Bellevue, la résidence autonomie à Bellevue.
Alors, ma sœur, vous n'avez pas fini l'équipement ?
Oui, 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 j'ai habité.
Moi, je suis la responsable de la résidence, et là, c'est des administrateurs. Et là, c'est l'assistance maître d'ouvrage pour les travaux qu'on fait dans la résidence.
Ça tient pas ou ça tient pas ? C'est
oui, on est peut-être raccordé, voilà. Ah ben là, on a été raccordé il y a 2 mois,
oui,
sur une partie du bâtiment. On est en train de faire les sous-stations pour raccorder les autres bâtiments.
Je
veux dire au sol.
Là, ça tient. Je risque rien. Alors, avec la montagnière, vous êtes fantastique.
Alors là, on n'a pas tellement de recul pour l'instant. Mais il n'y a déjà plus toutes ces chaudières à remplir de fioul. Voilà, toute la partie logistique, c'est quand même intéressant parce qu'on ne s'occupe plus de rien.
Et d'un point de vue coût, ça va.
Coût, on saura ça dans quelques temps. Enfin, je ne sais pas les études, ce que ça donne au niveau du coût.
Au niveau coût, ça peut être gagnant. Et c'est le niveau investissement maintenant et les coûts d'investissement qu'il faut amortir. Parce que là, c'est pour 17 logements. Donc, est-ce que les coûts de travaux dans la rénovation vont vraiment amortir tout ça ? C'est un peu le problème.
Vous avez fait ce suivi de projections un petit peu ? Vous avez une idée ?
Oui, on a des projections. Normalement, effectivement, dans une dizaine d'années, ça devrait être à l'équilibre. Mais le tout étant, on est quand même sur un bâtiment qui était un ancien couvent. Donc les calculs sur les épaisseurs de murs, etc., ne sont pas les mêmes que sur des logements neufs et standards. Donc, oui, les calculs ont été faits, sinon on n'aurait pas fait cet investissement. Et en plus, on s'occupe, c'est une résidence senior, donc le chauffage et la montée en température du chauffage est un sujet plus fort, parce que là, toutes les simulations qui ont été faites sont sur des chauffages à 19 degrés, etc. Pour une résidence senior, on ne chauffe pas à 19 degrés. Les personnes âgées ne peuvent pas rester dans leur salon à 19 degrés. Donc, c'est pour ça que la théorie veut que ça fonctionne. La pratique, on va voir ce que ça donne.
Ça va aussi desservir
l'établissement
du lycée, juste au-dessus.
Alors, oui, je crois qu'ils sont raccordés, le lycée est raccordé aussi.
Vous vous rendrez compte d'ici une année, enfin, le temps d'un exercice ?
Non, il faudra qu'on mette plus de temps que ça. Je pense que, oui, il faut, je dirais 4-5 ans pour être sûr que, en fonction des périodes de chauffe, etc., et puis, c'est pareil, nous, on a la production d'eau chaude qui va avec. Donc, il faut qu'on regarde ce que ça donne en été et tout. Je pense qu'il faut 4-5 ans pour éviter tous les phénomènes climatiques, etc., pour voir par rapport au fioul, par rapport au coût. Ne serait-ce qu'un coût, parce qu'avant, c'était les sœurs qui l'occupaient, donc on chauffait. Donc là, on va continuer avec des seniors, on va chauffer plus. Mais voir ce que ça donne, si on a vraiment une économie sur l'énergie de chauffage, déjà. Non. Ah si, pour l'eau chaude, mais ça ne fait plus qu'une seule production d'énergie. Oui.
Dans les discours, il y a eu des éléments, mais un réseau de 6 km 2, ex nihilo, vient alimenter la partie nord de Saint-Marcin, enfin partie nord, par opposition au réseau sud, on les a appelés nord et sud pour les différencier, c'est resté. Comme sur le réseau sud, donc là, c'est un équipement qui est propriété de la ville, via sa régie municipale, la régie Saint-Marcin Énergie Bois, qui a déjà en exploitation, enfin qui gère déjà un réseau, le réseau sud dont je parlais, qui est situé dans la chaufferie, située pas loin de l'entrée d'autoroute, dans la zone du secteur des Échavagnes. Ce nouveau réseau, il fait suite à des études qui ont mis en évidence qu'il y avait une opportunité, qu'il y avait un besoin en tout cas, et une opportunité de créer un nouveau réseau sur la partie nord, parce que le réseau sud ne pouvait pas être étendu plus par des contraintes techniques, il ne pouvait pas alimenter le reste, alors qu'on avait identifié beaucoup de besoins sur cette partie de la ville. Preuve s'il en est, on a sorti aujourd'hui un réseau qui, dans les estimatifs, doit produire 9,5 gigawattheures d'énergie par an. C'est ce qu'on disait, si on fait des équivalents, c'est l'équivalent du chauffage. On dit c'est 950 équivalents logements en chauffage. Voilà ce que ça représente. Le fonctionnement, c'est une partie biomasse, deux chaudières bois d'1,2 MW, qu'on va voir tout de suite, une chaudière gaz qui est là en appoint secours, 4,5 MW, Vous verrez l'intérêt des énergies fossiles, hein, c'est pas pour rien qu'on les utilise aussi depuis quelques décennies. On a une chaudière qui est quasi plus petite qu'une chaudière bois, mais qui est 3 fois plus grosse en puissance. Voilà. Donc son intérêt, c'est qu'elle est vraiment là en secours. Si jamais il y a un vrai problème sur le bois, on est capable d'assurer une continuité de service via le gaz, cette chaudière pouvant répondre à tous les besoins. Et elle vient aussi en appoint, c'est-à-dire que dans le dimensionnement des chaudières bois que vous allez voir tout de suite, on ne dimensionne pas ces chaudières bois pour le cas extrême où, en général, on dimensionne en fait dans cette région-là pour être assuré un service quand il fait moins 11 à l'extérieur. Les moins 11, on ne les connaît plus beaucoup. Donc dimensionner des chaudières bois pour ces moments-là de l'année, ça, c'est un non-sens. Et puis on se retrouverait avec des chaudières surdimensionnées qui fonctionneraient mal et qui s'useraient prématurément. D'où l'intérêt d'une chaudière d'appoint aussi. Donc la chaudière gaz, elle est en secours, mais aussi en appoint pour venir assurer si on est dans ces conditions-là. Ou quand il y a des pics d'appel de puissance, elle est capable de venir aider les chaudières bois. C'est son intérêt. C'est-à-dire la question, ça serait à partir de combien on appelle le gaz, voilà. C'est ça. C'est la question que je posais à l'exploit. Ah, il faut tourner. Ça veut dire de répondre parce que c'est une vraie question d'exploitation. Mais grosso modo, il me disait la dernière fois, s'il fait zéro et que ça fait un moment qu'il a fait zéro, on va peut-être se retrouver à appeler le gaz de temps en temps dans ces eaux-là.
Mais il y a la durée.
Il y a la durée. Et là, c'est vraiment ça, c'est le travail de l'exploitant, des réglages et du suivi. Donc ça dépend de beaucoup de choses le jour J.
C'est une journée qui a bien marché. Ça a quand même rassemblé du monde entre les acteurs du territoire.
C'est une journée qui a bien marché et qui était à l'image du projet. Bien démarré, bien pensé, bien construit, bien suivi. Voilà.
Le déroulement, finalement, depuis le début, maintenant, il y a un an et demi, facilement, deux ans. Ça s'est déroulé sans encombre, il n'y a pas eu de...
Bien sûr, il y a eu des encombres, mais on a su les gérer. C'est là où on a besoin de gens, comme Amaury en particulier, mais aussi des professionnels d'Engie ou tout envers, et Didac, pour arriver à gérer, effectivement, tous ces aléas. Et faire en sorte que ce ne soit que des aléas et pas des problèmes.
Et là, les acteurs aussi, ceux qui sont desservis, un petit peu, ils sont dans un peu l'expectative aussi de savoir ce que ça va
leur permettre. Plus maintenant, puisque en fait, tous ces gens ont de l'eau chaude, d'une manière ou d'une autre. Donc,
j'entends.
Ah, pour les coups ? Pour les coups, ils vont attendre les coups, mais on est sûr. On est sur notre coup.
Les tarifs, ils les ont.
On est absolument serein. Ouais.
Les tarifs, ils ont été fixés avant le lancement des travaux. C'était même une des premières étapes. Donc les gens savent à quoi ils vont être mangés. Hein. C'est complètement public et c'est même. Ils y sont allés de bon cœur, normalement, parce qu'ils vont économiser de l'argent. On avait estimé qu'ils allaient économiser de l'argent. Donc.
Alors, ils attendent de recevoir la facture aussi pour bien se rendre compte. J'imagine. Il reste encore des choses à faire ou tout est bouclé ? Il y a encore des petites.
Sur les travaux, il reste quelques petites choses à faire. La définition sur la chaufferie. Les sous-stations sont toutes raccordées. Il y a du chaud, mais il reste des raccordements électriques et de la régulation qui doit se terminer. Et puis après, c'est du travail dans la régie elle-même, l'organisation pour pouvoir. Est capable de facturer en fait ce nouveau service qu'on a créé. Donc là, il y a du travail plutôt en off quoi, qu'on verra pas. Être capable d'émettre les factures, en fait, il y a quelques enjeux administratifs et il y a encore ce travail-là. Quoi. Mais les travaux eux-mêmes sont quasiment terminés.
Voilà, l'hiver peut arriver, vous restez confiant.
Ah oui,
là, ah oui, on est sûr, bon. Ouais. Absolument.
Ça, c'est bon.
D'ailleurs, vous avez vu. Pour respecter nos engagements de délivrer de l'eau chaude dès qu'il y en aurait besoin, on a mis une chaufferie mobile en place. Engie a mis une chaufferie mobile en place, puisque les deux chaudières et la chaudière gaz n'étaient pas démarrées à cause du problème de cheminée qu'on a eu. Et donc, il y a eu une chaudière mobile qui a marché au fioul pendant 2 semaines, hein, c'est ça ?
Oui, 2-3 semaines.
Deux, trois semaines, de façon à assurer l'eau chaude quoi qu'il arrive. Voilà. Ça montre le sérieux de toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Rien n'a été laissé au hasard.
Voilà. Merci Chrysandrière et Amaury Gaud.
Merci.
Je vous en prie, à bientôt. Merci.